9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Tiens, ce matin, on va dire AVS à votre stress. Avec ou sans stress, mais d'ailleurs, le stress, on en a besoin. J'ai invité le docteur Feelgood ce matin. Bonjour, David Gourion.
Bonjour.
Alors, vous avez hérité de ce surnom, docteur Feelgood.
Oui.
Ça a été personnage de BD à une époque de votre vie.
Personnage de BD et puis groupe de rock avant. Hein. Moi, une période que j'ai pas bien connue, mais ouais, c'était un groupe de rock.
Ah, les docteurs Feelgood.
Oui,
c'était pas. Non, j'ai cru que c'était vous qui disiez.
J'ai eu une
vue rock. J'ai dit,
j'aurais bien aimé, mais non.
Bon, non, vous avez fait autre chose. Hein. Vous êtes médecin, psychiatre. Hein, vous avez exercé à Sainte-Anne. Sainte-Anne, ça avait une époque, on disait, il était à Sainte-Anne.
Oui.
Ouais, ça voulait dire quelque chose quand on était à Sainte-Anne. Oui. Ça voulait dire qu'on était chez les fous. Hein.
Alors, moi j'ai un biais, ça a été un peu ma maison. Hein. J'y ai travaillé tellement longtemps que pour moi, c'est vraiment un endroit très, très, très familier. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de stéréotypes encore hein, sur les hôpitaux psychiatriques, sur la psychiatrie.
Mmh. Vous publiez Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime aux éditions Marabout. Donc aujourd'hui, entre 0 et 10, vous êtes combien ? À quel niveau de stress ?
Là, en début d'interview, comme ça, je dirais 3-4.
C'est beaucoup ou pas ?
Oh, j'ai pu avoir plus. Hein. J'ai pu surcoter dans mes scores.
Mmh. Et en général, en fin d'interview, ça va mieux ou c'est...
En général, je suis à moins 3 en fin d'interview.
Mmh. Ah oui, donc c'est, voilà, tout augmente. Le stress, on en a besoin finalement. Oui. On a toujours l'impression que le stress, c'est quelque chose de négatif, mais pas que.
Heureusement qu'on en a un peu de temps en temps parce que... D'ailleurs, il y a cet effet agréable, vous parlez des interviews, de redescendre du stress. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, parfois. Mais quand les choses se sont bien passées et qu'on a cet effet de soulagement, je ne sais pas, après une intervention devant des collègues, etc., les gens sont contents, ça se passe bien. Et on a eu ce petit shot d'adrénaline, si j'ose dire. Je pense que ce n'est pas très éloigné de ce que le parachutiste peut ressentir. Ouais. Ce n'est pas si désagréable. Et puis surtout, c'est un moteur à l'action, le stress. L'étudiant sans stress ne va pas bosser ses examens. La personne qui a une activité professionnelle importante ne va pas donner le maximum d'elle-même. On a besoin de ça. Ça nous sert à réagir. Ça nous sert à nous préparer à l'action. Mmh. Sans le stress, nous n'existerions plus en tant que. Mmh. On est des petits mammifères, hein, les êtres humains. Faut pas se raconter d'histoires. On aurait été bouffés par nos prédateurs. Vous imaginez, à la cool, le prédateur arrive, on est tranquille. Donc ça nous a sauvés, ça nous a permis de survivre, ça nous permet de nous préparer à l'action. Le problème n'est pas le stress, le problème est la régulation du stress.
Mmh. Comment est-ce qu'on peut évaluer, ceux qui nous écoutent, nous, notre niveau de stress ? Est-ce que c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire ?
Bien sûr, et le simple fait de l'évaluer régulièrement, on a pu montrer scientifiquement que ça permet de mieux le réguler, de mieux le contrôler. Bah, ce que vous faisiez, prenez une échelle de 0 à 10... 0, vous imaginez que c'est vraiment totalement détendu, vous êtes en vacances, les doigts de pied en éventail. Et 10, c'est la pire peur que vous ayez vécue dans votre vie.
Mmh.
Et donc vous avez là une échelle, comme pour la douleur, une échelle, on dit en médecine, une échelle visuelle analogique, de votre niveau de stress. Le simple fait d'y être attentif régulièrement est déjà une première technique toute simple pour mieux le réguler. Vous savez, c'est comme quand on se dit, est-ce que j'ai mal dans le dos, est-ce que je me tiens droit, puis... Le simple fait d'y faire attention fait qu'on se remet un peu.
Mmh, on se redresse.
On se redresse. Mmh. C'est pareil pour le stress. Si je me rends compte que je suis à un niveau un peu élevé de 3, 4, 5, 6, peut-être que le simple fait de le savoir fait que je vais déjà utiliser des stratégies pour essayer de le réguler un peu.
Mmh. Alors, pour comprendre, votre livre, c'est une méthode de régulation du stress. Vous êtes un peu directif avec le lecteur. Pourquoi ?
J'espère que je l'ai pas trop pété parce que je suis pas du tout quelqu'un d'autoritaire, c'est pas du tout ça. Mais
quand je dis directif, c'est pas négatif, mais
je me disais qu'en fait, et c'est d'ailleurs souvent un peu ce que les gens demandent, il fallait donner une direction assez claire. C'est-à-dire que si vous proposez une méthode et que c'est un truc un peu fouillis, qui marche pas, où les gens se disent le bouquin est génial, mais au bout de 3 jours, ils l'ont lâché, ils sont tout aussi stressés, ça ne marcherait pas. Donc je voulais que en fait. Moi, le souci numéro un, c'était l'utilité. Faire un bouquin, pour faire un bouquin, ça m'intéresse pas. Je voulais que ça serve à des gens et que pour des gens stressés. Donc, faire un bouquin qui se lise en une seule fois, on se dit, tiens, c'est vachement génial, et puis 3 jours après, on est passé à autre chose, ça ne peut pas changer vos habitudes de vie. Donc, il fallait que ça dure un peu. Donc, c'est peut-être un peu directif de dire aux gens, le lisez pas d'un coup, mais vous allez lire qu'un chapitre par semaine.
En 7 fois, en gros, faut le lire.
Exactement.
Bon.
Mais c'est pas très éloigné d'une psychothérapie. Vous allez pas faire, si vous allez voir un psy, vous allez pas faire vos 7 séances dans la journée, faire 7 heures de psychothérapie et puis repartir en disant c'est réglé. Vous allez le voir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça va durer, il y a une temporalité, et ça joue un rôle, la temporalité, pour changer une habitude. Donc pardonnez le côté un peu directif, mais c'était pour que l'outil marche.
Moi, ça m'a fait rire. Et à noter que vous ciblez spécifiquement les outils motivationnels. Pourquoi c'est là-dessus que vous voulez agir ?
Mais parce que vous pouvez vous dire, c'est vachement bien, par exemple, d'arrêter de fumer. Mais pour les gens qui fument, ils savent, tout le monde sait que c'est très bien d'arrêter de fumer. Comment je fais pour, en pratique, trouver en moi la force nécessaire, la motivation pour le faire et pour que ça tienne dans la durée ? C'est un peu pareil pour le stress. Les gens qui sont très stressés vont vous dire, c'est devenu une habitude. J'ai une patiente très drôle qui me disait, il faut que j'ai toujours mon os à ronger. Comme un caniche qui doit ronger son os. C'est-à-dire que quand je suis anxieux, je passe d'un sujet à un autre, et au fond, c'est devenu une habitude, et si tout va bien, c'est angoissant. Parce que je ne suis plus dans l'habitude. Donc, travailler sur les booster un peu la motivation au changement, c'est pas si simple, en vrai. Qu'est-ce qui fait, on peut se dire, je suis trop stressé, faut que ça change. Mais comment faire en sorte que ces changements-là, je trouve vraiment la motivation de les mettre en place dans la durée. C'était ça aussi un peu le défi de ce livre.
Donc, c'est une méthode perso. C'est vous qui s'appuie sur l'expérience du cabinet, de vos consultations, de vos patients.
De ça, sur des données scientifiques et sur une expérience personnelle d'anxieux.
Vous confessez.
Clairement. Comme plein de gens. Vous regardez les statistiques. Une personne sur cinq, à peu près, souffre d'anxiété. Moi, ça a été un vrai sujet qui a pu être vraiment, vraiment gênant dans ma vie à certains moments. Et donc, vous savez, on choisit jamais notre métier totalement au hasard. Moi, j'ai choisi médecine et psychiatrie. Et j'ai essayé beaucoup de choses pour mes patients, mais aussi pour moi, pour trouver ce qui marchait le mieux. Et au fond, ce livre, cette méthode, c'est un condensé de ce que j'ai pu voir à la fois qui fonctionnait bien chez mes patients, qui fonctionnait bien sur moi. Et puis comme j'ai une casquette aussi, j'ai fait de la recherche quand j'étais plus jeune, de regarder aussi ce que les données scientifiques, vous savez, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'équipes de chercheurs qui continuent de travailler sur comment on peut optimiser les psychothérapies pour que ça marche mieux et plus vite, de dire si je peux en faire bénéficier les lecteurs, et ben super.
C'est quoi la différence entre un anxieux et un non-anxieux ?
C'est une très bonne question. En fait, tout le monde peut avoir de l'anxiété ou avoir des peurs à certains moments. Notre esprit, notre cerveau est configuré pour détecter le danger. C'est grâce à ça qu'on a survécu, pour voir le petit serpent, etc. La différence entre l'anxieux et le non-anxieux, c'est la rigidité. Le non-anxieux est très flexible. Il va passer d'un truc qui fait peur, et Dieu sait qu'il y a des sujets qui font peur en ce moment. On est passé du Covid à la guerre, etc. Et dans nos vies personnelles, il y a plein de trucs qui peuvent nous soucier, nous stresser, nous, etc. Donc, on a tous des pensées anxieuses. C'est normal d'en avoir. Par contre, l'anxieux va rester bloqué dessus, va rester très rigide sur sa pensée, va cristalliser dessus et va tourner en boucle sans en sortir.
Alors, comment on appelle ça, le fait de rester sur une pensée ? Bien, c'est ça qu'on appelle ruminer ?
C'est absolument ça. La rumination, c'est tourner en boucle. Je reprends une autre image parce qu'elle est parlante. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'est un patient qui me disait « Je suis comme sur un périphérique sur lequel toutes les sorties seraient bouchées. Je ne peux que tourner en rond. » Et en fait, la différence, c'est bien de penser à nos soucis de temps en temps parce que ça nous permet de les résoudre aussi.
C'est vrai ou c'est pas vrai ça, dans votre livre, je suis pas sûr de ça.
La grande différence entre « Je pense à mes soucis pour les résoudre » et une rumination anxieuse, c'est que dans le premier cas, d'abord, ça dure pas si longtemps que ça et je trouve des solutions. Dans le deuxième cas, ça dure longtemps, je trouve aucune solution et je me sens mal après. L'anxieux va vous dire, j'ai des symptômes physiques. De 21h à 23h, j'ai pensé à ma mère qui allait pas bien. J'ai pas trouvé de solution, j'ai pas trouvé un médecin, un hôpital pour la soigner. J'ai juste tourné en boucle, j'avais des palpitations, j'avais une boule dans la gorge, je me sentais pas bien, etc. Et c'est comme ça tous les soirs. Donc, ça ne résulte pas sur une action concrète qui va permettre d'aider ou de trouver des solutions pour aller mieux. Et ça me crée un mal-être. C'est ça la rumination.
Et le non-anxieux, donc, dans ces cas-là, il passe sur le...
Il switch beaucoup plus vite. Oui, maman a des soucis
comme
de santé.
Comme les chats.
Exactement, maman a des soucis de santé, on va lui trouver un médecin, etc. Il est plus dans l'action, dans les stratégies de coping, trouver des solutions.
Stratégie de...
Coping, de gestion des problèmes.
stratégies de coping. C'est intéressant parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que les stratégies de coping.
Pardon, excusez-moi le jargon, vous faites bien de le dire. C'est en fait le non-anxieux va plus chercher des solutions, alors que l'anxieux va plus rester focalisé sur le problème. Le non-anxieux a un effet un peu, s'il fallait dire, grand angle. Il voit le contexte global avec les solutions dans le contexte. Alors que l'anxieux, il est sur un mode hyper zoom. Il n'y a que le problème. On ne sortira jamais du problème. Et je suis le problème.
Donc, mais ça c'est important de le comprendre. On parlait des chats qui switchent. Oui. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des chats?
Je vois que vous avez lu très attentivement mon ouvrage.
En fait, vous avez un chat qui a un nom
Deux.
Non, vous avez un chat qui a un nom de tigre.
Shere Khan.
Bah pourquoi vous devez avoir donné à votre chat un nom de tigre?
Moi, c'est un petit félin, c'est un petit tigre.
Ça vous rappelle votre enfant?
Absolument.
Les dessins animés de votre
enfance?
Bien sûr.
Et alors, je disais tout à l'heure, j'étais pas complet parce que vous me demandiez comment j'avais créé cette méthode. Je disais les études scientifiques, les patients et moi. Mais en fait, mes chats aussi. Parce que ceux de nos auditeurs qui ont des chats savent que les chats, je parlais de flexibilité, ils ont cette capacité incroyable à switcher d'un état d'hyper repos, ils sont là le ventre en l'air, ils ont l'air complètement détendus, à un état d'hyper attention. Vous savez, il y a un petit bruit bizarre inattendu. Ch-toc ! Ils orientent leurs oreilles, ils sont complètement en observation, hyper attentive. Et surtout, ils sont capables de repasser de cet état de ma vie est en train de se jouer, hein, on a l'impression qu'ils sont quand même à l'affût, à un état d'hyper repos. Et j'ai eu envie de les copier en disant, mais s'ils arrivent à switcher comme ça aussi vite, d'un état d'hypervigilance comme un anxieux, un état d'hyper détente, est-ce que, au fond, je disais la différence entre l'anxieux et le non-anxieux, c'est pas d'avoir des pensées anxieuses, on en a tous. C'est de pouvoir switcher. Si on peut rendre l'attention flexible, que notre attention ne reste pas bloquée sur la pensée anxieuse, sur ce qui nous fait peur, mais qu'elle peut repasser sur autre chose, peut-être ça aiderait les anxieux. C'était un peu ça l'idée, et donc de développer ensuite des techniques. Bon, après, j'ai regardé aussi ce qu'il y avait dans la littérature scientifique.
Vous n'êtes pas arrêté au chat. Bon,
non.
Le premier s'appelle Shere Khan et l'autre s'appelle Nuage.
C'est intéressant, les nuages aussi. D'abord parce que c'est un petit chat blanc tout cotonneux qui faisait penser à un nuage. Et puis, c'est une métaphore que j'utilise aussi pour les anxieux. Au fond, si vous considérez vos pensées, si vous considérez votre pensée, votre psychisme, votre espace mental comme un ciel. Dans le ciel, il y a des nuages qui passent. Un souci, c'est un gros nuage noir. Vous pouvez décider que vous faites un zoom sur ce nuage noir, que vous êtes le nuage, que vous êtes votre peur. Vous pouvez essayer de visualiser-le, imaginer que vous prenez de la distance et que vous regardez d'un seul coup tout le ciel. Il y a ce nuage noir, mais il y a plein d'autres nuages et puis ça passe et ça bouge comme le temps. Il n'y a rien de plus impermanent, les bouddhistes le disent bien, que nos émotions. Il y a une impermanence, ça change tout le temps. Et si je suis conscient de cette impermanence, de ce caractère très fluctuant de mes pensées, de mes émotions, comme le temps qu'il fait, certains jours il fait gris, certains jours il fait beau, ça va changer, ça va bouger, je reste peut-être moins bloqué sur ce nuage gris.
Le docteur David Gourion qui publie « Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime » chez Marabout. Et on en parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Avec le docteur David Gourion qui est avec nous aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes neuroscientifique en plus d'être médecin et psychiatre et vous publiez Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime aux éditions Marabout. Qu'est-ce que les neurosciences qu'on convoque à tout bout de champ aujourd'hui ont à nous apprendre de plus sur le stress? La localisation dans le cerveau, la façon dont nous gérons nos émotions, qu'est-ce que ça nous apprend de plus?
Oui, alors vous avez raison, on les met un peu à toutes les sauces, ces pauvres neurosciences, et puis au fond, la localisation dans le cerveau, même si on peut se passionner pour l'imagerie cérébrale, ça va pas beaucoup aider l'anxieux, on s'en fout un peu. Par contre, il y a un aspect, je trouve très intéressant des neurosciences, c'est tout l'aspect de ce qu'on appelle, pardonnez-moi le jargon, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est que notre cerveau n'est pas un ordinateur. Pourquoi ? Parce que je redis, on a dû survivre dans des environnements extrêmement hostiles. Hein. On a vécu, on avait des prédateurs, on risquait de se faire bouffer 10 fois par jour par les lions, etc. Donc notre cerveau a dû développer des mécanismes de survie. Et en quelques milliers d'années, ces mécanismes de survie n'ont pas changé parce qu'on est dans des environnements plus sécurisés, ils sont toujours là. Donc ces biais cognitifs, c'est des sortes de petits raccourcis que notre cerveau prend pour essayer de gagner du temps. Et ce qui fait qu'on n'est pas toujours si rationnel que ça. On est des êtres irrationnels, ce qui nous rend d'ailleurs beaucoup plus sympathiques que si on était des robots ou des ordinateurs. Ces biais cognitifs ont pu nous rendre service en termes de survie, sauf qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans la jungle avec des serpents, des lions, des cannibales autour de nous, mais ils sont restés. Et ce que les neurosciences ont pu montrer, c'est que certains biais cognitifs sont particulièrement enquiquinants chez les anxieux. Les biais cognitifs, il faudrait dire, c'est des petites erreurs de jugement.
Notre cerveau se trompe. Moi, je traduisais par erreur d'interprétation, mais...
Exactement. Ouais, notre cerveau se trompe. Notre cerveau est un petit prestidigitateur qui nous fait prendre parfois des soucis majeurs. Moi, je me suis fait des soucis incroyables pour des trucs qui sont jamais arrivés dans ma vie. Je sais pas pour vous.
Ça, il faut expliquer. Pour vous, un problème qui n'est pas arrivé n'est pas un problème.
Oui, mais notre cerveau ne le sait pas. Notre cerveau, c'est une interface avec le réel. Personne ne sait ce que c'est que le réel. Notre cerveau est une machine qui recrée du réel, qui nous donne une image du réel. Extraordinaire, en trois dimensions, avec des bruits, des sons, des odeurs, etc. Mais cette interface avec le réel, elle est aussi configurée par toutes les expériences qu'on a vécues avant, et puis aussi, je redis, par des circuits neuronaux qui se sont constitués au fur et à mesure de l'évolution. Tout un modèle darwinien de comment le cerveau doit fonctionner. Aujourd'hui, nos environnements sont peut-être moins dangereux qu'autrefois, mais on a gardé ces petites erreurs de jugement qui nous font... Au fond, je vais vous donner un exemple. Il y a 10 000 ans, il y avait des taillis qui bougeaient. On était dans la forêt, on se baladait. Est-ce qu'ils voulaient mieux se dire « c'est pas très grave, c'est juste les taillis qui bougent, on continue la balade dans la forêt » en termes de survie, ou est-ce qu'il valait mieux se dire c'est peut-être un lion, il faut fuir. Notre cerveau nous a appris qu'il fallait mieux se dire c'est dangereux. On a gardé ce biais cognitif-là, ce biais de pessimisme-là, qui est il vaut mieux surinterpréter un danger que le sous-interpréter en termes de survie. Il vaut mieux avoir peur que pas peur. Si j'ai une pensée anxieuse, mon cerveau va se focaliser dessus, il va faire un zoom dessus parce qu'il y a 10 000 ans, ça me sauvait la vie. Aujourd'hui, ça me crée juste un souci et je tourne en boucle dessus. On peut pas changer les réseaux de neurones de notre cerveau. Ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Par contre, on peut avoir conscience de ces erreurs de jugement et on peut essayer de redresser un petit peu le tir.
Donc on s'éloigne.
Et je donne des techniques pour ça. Concrètes. L'idée, c'est pas juste d'expliquer parce que c'est intéressant de comprendre comment notre cerveau fonctionne.
Non, c'est la base.
Mais je redis, au fond, l'anxieux, il s'en fout un peu. Il veut des techniques qui marchent pour comment je fais pour prendre du recul par rapport à ses pensées anxieuses.
Mais c'est biais cognitif, ces pensées qui sont fausses, sont à l'origine du stress.
Oui.
Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre.
Mais bien sûr, je dis notre cerveau, au fond, c'est un peu comme une chaîne d'information en continu, sans fast-checking, où l'information ne serait jamais vérifiée, où il y aurait des informations vraies, par exemple, il ne fait pas beau aujourd'hui, ça c'est une factuelle, et des théories non vérifiées, il ne fait pas beau aujourd'hui, donc ma vie va être pourrie, ça c'est une théorie. Donc notre cerveau crée des fake news en permanence, et on a tendance à les prendre pour vrai, pour une simple et bonne raison, que j'ai tendance à croire ma pensée, parce que c'est la mienne. Et donc l'idée, c'est de prendre conscience que nos pensées, c'est juste notre cerveau, il produit de la pensée, comme notre peau produit de la transpiration. Certaines pensées sont vraies et intéressantes, d'autres sont juste des petites peurs, et on n'est pas obligé... Alors, vous me direz, mais on ne peut pas éteindre une chaîne d'information
en continu, qui est en boucle.
Ouais, qui nous fait peur, on peut décider d'éteindre, d'appuyer sur le bouton, puis on éteint le truc. Parfois, c'est ce qu'il faut faire dans la vraie vie. Pour les anxieux, les chaînes d'infos en continu, ça peut être très 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 stressant. Je leur dis de temps en temps, faites un petit peu moins. Mais notre cerveau, on peut pas. Par contre, on peut adopter une attitude de mise en retrait, c'est-à-dire, c'est comme un bruit de fond, mais je l'écoute pas trop. Et là aussi, l'idée, c'était de donner des outils très pratiques pour que les gens puissent prendre conscience que tout ce que notre cerveau nous dit tout le temps, d'hyper angoissant. Je redis, moi, je me suis fait des films, on se fait des petits films d'horreur.
Exemple. Quand est-ce que vous vous êtes fait peur, vous, pour la dernière fois?
Mais je sais pas, imaginez.
Vous, l'ancienne anxieux.
Je m'en fais tous les jours.
Qui s'est soigné.
Je m'en fais tous les jours. Moi, dans mon métier, je soigne des gens qui peuvent avoir des idées noires, aller très mal, des ados qui peuvent avoir des idées de suicide, etc. Donc, je vais toujours imaginer que, peut-être cet ado, etc., va très très mal, va faire une bêtise, etc. Et plein de fois, et du coup, je vais passer un petit SMS, comment ça va, et puis je vais être rassuré. Donc, mon cerveau, il me crée sans arrêt, etc. Et j'avais besoin pour moi-même, sinon vous imaginez, le psychiatre qui serait angoissé tout le temps, ce serait terrible pour ses patients. Donc, j'avais besoin aussi de créer pour moi des stratégies et puis de présenter celles que j'ai pu créer, aussi celles qui sont connues simplement comme fonctionnant correctement. Je vais quand même citer mes sources, hein, les thérapies comportementales et cognitives. Moi, je me suis formé à ça il y a une vingtaine d'années auprès de Christophe André, etc. Et ça, ce sont des outils quand même formidables.
C'est lui qui vous a donné envie d'écrire, d'ailleurs.
Bien sûr, c'est lui qui m'a dit, il faut que tu écrives. C'est lui qui m'a dit, il faut le faire, les gens ont besoin d'outils, etc. C'est important de le faire. Et il faut faire des livres utiles. Il ne faut pas faire juste des livres qui expliquent la science. Il faut donner des outils aux gens. Donc, merci Christophe.
Nos pensées ne sont à notre cerveau rien de plus que la transpiration de la peau. Voilà.
Oui, bien sûr. Mais même Einstein, il pensait pas que des trucs géniaux toutes les 3 minutes. Hein. Quand il était sous sa douche, il devait aussi
de temps en temps. Il pensait aussi beaucoup de choses qui étaient fausses, en fait.
Mais on pense tous beaucoup de choses fausses. Ce qui est important, c'est de le savoir. Je me fais un petit film d'horreur qui n'est sans doute pas vrai. Et du coup, c'est la baudruche se dégonfle un peu.
Alors, il y a pas mal de stratégies dans votre livre. Alors, on va commencer par des stratégies qui ne fonctionnent pas. Les stratégies d'évitement.
Oui.
Bon,
pourquoi... Je vais pas y penser. J'ai souci, je disais tout à l'heure, ma mère va pas bien. J'évite, je vais pas y penser. Je vais regarder des séries, je vais machin, etc.
Je vais faire une diversion, en fait.
Ouais. Le problème, c'est que dans notre cerveau, il y a une sorte de chef d'orchestre, ça s'appelle la métacognition, qui nous renvoie...
Alors, métacognition...
Les mamans qui nous écoutent savent très bien que, à l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, elles ont pas besoin de mettre un rappel sur leur téléphone ou leur agenda pour y penser. Leur cerveau leur dit, c'est l'heure d'aller chercher les enfants. On a comme ça des sortes de rappels, de petites fenêtres pop-up qui s'ouvrent dans notre cerveau, parce qu'il y a une sorte de chef d'orchestre dont on n'a pas conscience qui organise notre pensée et nos émotions. Il y a une sorte d'organisation de ça, ce qui est plutôt logique au fond.
Presque des automatismes, hein, d'ailleurs, aujourd'hui.
Comme une tour de contrôle pour les avions. D'accord ? Et l'idée, c'était plutôt de dire que... je vais rester sur la métaphore de la tour de contrôle et des avions. Si les pensées anxieuses, c'est des avions qui vont pas dans les bonnes directions, on pourrait appeler à chaque fois le pilote de l'avion en lui disant « Dis donc, tu vas pas dans la bonne direction », ça prendrait un temps fou parce que des avions, il y en a plein. Là, l'idée, c'était de dire « On va plutôt travailler sur la tour de contrôle et faire prendre conscience des mécanismes, le chef d'orchestre, qui fonctionne pas très bien, la tour de contrôle qui envoie un peu les avions n'importe où, nos pensées anxieuses, il y en a trop. Et donc, on va essayer de reconfigurer, de travailler avec cette tour de contrôle. Il y a des, je cite Adrian Wells, notamment des équipes anglaises qui ont beaucoup travaillé sur la métacognition, de dire plutôt que travailler sur chaque pensée anxieuse, on va travailler sur les processus globaux qui permettent de mieux réguler nos pensées, nos émotions. Pardonnez-moi le jargon.
Non, la métacognition, c'est la façon dont on pense nos pensées.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Mais c'est passionnant, ça.
Les
c'est
êtres
passionnant.
Humains, on est capable de penser notre pensée. On est capable, le fait que je sois capable de dire je suis un anxieux, c'est une pensée sur ma pensée. Je suis conscient de la façon dont je suis structuré.
Bon, donc les stratégies d'évitement ne fonctionnent jamais ni dans les addictions, ni dans les régimes, ni dans les...
Parce que ça va vous revenir en boomerang. Ça va vous revenir, votre cerveau va vous le rappeler. La fenêtre pop-up va se réouvrir régulièrement en disant mais si t'as des problèmes d'argent, t'as des problèmes d'argent, ou t'as des problèmes de santé, ou t'as des problèmes machin. Donc ça va revenir. Donc la stratégie d'évitement... Elle ne marche que très temporairement et ça revient vraiment de façon douloureuse. Et puis, je vais vous dire un petit secret, ne pas régler ses problèmes dans la vie, c'est pas la meilleure façon de pas être anxieux. On a plutôt intérêt à les régler. Simplement, je donne une technique qui est ne soyez pas le valet de vos soucis. Nos soucis nous convoquent toutes les... Si vous avez un collaborateur ici, à la radio, qui vous appelle cette nuit à 3h du matin en disant on a un problème d'approvisionnement de stylos, je vais lui dire, t'es gentil, mais tu m'appelles pas à 3h du matin pour me dire ça, on en reparle demain. Nos pensées, on a tendance à toujours vouloir répondre en permanence. On peut les recadrer, on peut leur donner des rendez-vous, on peut ne pas être le valet de nos peurs.
Alors, il y a une stratégie, enfin, il y a plusieurs stratégies. Il y a les stratégies de rendez-vous fixés à vos soucis. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on appelle ça?
On va les recadrer, comme ce collaborateur qui vous appellerait à 3h du matin. Vous allez lui dire, on va se donner rendez-vous demain à 17h. On parlera de ce vaste problème d'approvisionnement de studio, de stylos dans le studio.
Mais c'est pas mal.
Voilà. Donc, on peut, plutôt que de tourner en boucle sur un souci à 23h30 qu'on ne peut pas résoudre, se dire ça, toi, je t'évite pas. Je te mets dans un tiroir. Par contre, demain, on a rendez-vous pour de vrai. À 16h, parce que entre 16h et 16h15, j'aurai le temps de traiter un peu ce problème-là, de passer 2-3 coups de fil, de le régler pour de bon. Mais c'est pas maintenant. Je dis pas que c'est magique et que ça marche tout de suite, mais que si on s'entraîne, au bout d'un moment, on y arrive. Et le collaborateur, il finit par comprendre qu'il faut arrêter de vous appeler à 3h du matin.
Donc c'est ça. On prend rendez-vous.
On recadre.
On recadre et on s'en occupe quand c'est le moment.
On recadre nos pensées comme on le ferait avec quelqu'un d'extérieur qui viendrait toutes les trois minutes nous dire gère tes problèmes. Non, je choisis quand et où.
Bon, en tout cas, moi je vous donne rendez-vous après la pub. Le docteur David Gourion est notre invité à l'occasion de la publication de Antistress et sa méthode, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime aux éditions Marabout.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors on parle de stress et d'une méthode justement pour juguler, on va dire.
Réguler
le stress avec le docteur David Gourion, qui est notre invité. Antistress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime aux éditions Marabout. Et vous expliquez que finalement, la rumination, c'est un processus et c'est contagieux. On peut co-ruminer ensemble.
Oui, absolument. Alors ça, c'est un truc très fréquent, en particulier dans les relations mère-fille. Il m'arrive de voir des patientes qui me disent, je ne dis pas que les hommes ne le font pas aussi, mais peut-être un petit peu moins, quoique j'aime pas les généralités sur le sexe, mais il y a souvent ce côté, j'ai des soucis, je veux en parler à quelqu'un, ça va me faire du bien. Le problème, c'est que si ça devient une co-rumination à deux, c'est-à-dire qu'avec maman, on a parlé pendant 2 heures de nos soucis respectifs, et loin de se rassurer mutuellement, on s'est co-angoissé toutes les deux en même temps, on a fait monter notre niveau de stress, et la patiente me dit, bah ça va bien dans la journée, mais au moment, j'arrive plus à m'endormir, j'ai plein de trucs, etc. Et en fait, il faut prendre garde à ces co-ruminations, c'est-à-dire que, je vous donnais un petit secret que je donne quand je donne des cours aux internes en médecine, aux étudiants en médecine, je leur dis, un premier secret, c'est ne rassurer jamais un anxieux. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. Quand vous rassurez un anxieux, d'abord, il faut savoir que vous allez lui apporter un soulagement, mais extrêmement temporaire, parce qu'il va recréer lui-même ses petites fake news, comme on en parlait tout à l'heure, parce que c'est une chaîne d'infos en continu très très angoissante.
Et qu'on croit ce qu'on pense.
Et que deuxièmement, plutôt que de l'inciter, vous savez, c'est la métaphore de plutôt que donner du poisson à un pauvre, apprends-lui à pêcher. Il va pas internaliser un sentiment de sécurité, il va considérer qu'il est dépendant de quelqu'un pour le rassurer. Et en fait, vous ne l'aidez pas. Je dis pas qu'il faut jamais rassurer les gens. Mais je dis qu'un anxieux qui vous demande la réassurance tout le temps, vous allez le rendre dépendant de vous et vous n'allez pas tellement l'aider, parce que la meilleure aide pour l'anxieux, c'est de développer des outils qui lui permettent de s'apaiser lui-même. Un enfant, bien sûr, il faut savoir le rassurer, mais il faut aussi lui apprendre des techniques pour se rassurer tout seul. Si la seule façon de se rassurer, c'est que maman vienne me chercher à l'école quand je suis anxieux, ben, ça va devenir un enfant qui aura une anxiété de séparation, qui aura tout le temps besoin de sa maman. C'est pareil, les co-ruminations. Si j'ai toujours besoin de quelqu'un pour calmer mes angoisses, je fais grandir ces angoisses. Je les arrose et donc elles vont pousser.
Je les entretiens. Mais il y a des gens qui aiment ça, hein. Enfin.
C'est ce que je disais. Il peut y avoir un côté un peu addictif du stress et c'est pour ça que je disais, faut travailler sur la motivation comme chez un fumeur. Comment vous motivez le fumeur? Il sait que c'est pas bon pour lui, mais il fume quand même en se disant, c'est mon plus grand kiff. C'est de penser, c'est de fumer. Je sais que c'est très mauvais, mais c'est mon plus grand kiff. Vous savez, une ambivalence comme ça. Chez les personnes anxieuses, il y a une ambivalence. Je déteste être anxieux, mais mon plus grand kiff, c'est de penser à mes soucis. Donc, il faut des techniques motivationnelles pour réduire un peu ça.
Vous parliez tout à l'heure des gens qui n'arrivent pas à s'endormir le soir. Comment on agit justement pour les personnes qui ruminent et qui finalement ruminent parce qu'elles n'arrivent pas à s'endormir et qu'elles disent « mais en plus demain je dois me lever tôt, je serai pas en forme ». Enfin.
Alors un petit truc en exclusivité, c'est quand vous voulez vous endormir, la pire chose à se dire c'est « il faut que je m'endorme, sinon demain je serai pas en forme, ça va être catastrophique ». Parce que quand vous faites ça, vous dramatisez votre difficulté à vous endormir, vous augmentez votre niveau d'anxiété, vous augmentez vos niveaux d'hormones du stress, d'adrénaline, de noradrénaline. La résultante, c'est que vous ne dormirez pas. Au même titre que si je vous dis pensez à tout ce que vous voulez sauf à un ours blanc, vous allez penser à...
Un ours blanc.
Donc en fait, il faut se dire...
Pourquoi ? Parce que pour faire quelque chose, pour ne pas faire quelque chose, le cerveau a d'abord besoin de le faire.
Exactement. Donc, plutôt que de se dire, il faut absolument que je m'endorme, il faut que je lutte pour m'endormir, ça ne marchera pas. Vraiment, ça ne marchera pas. Dites-vous plutôt l'inverse. C'est pas très grave si je dors pas. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai longtemps pris des gardes. Je vous assure, on peut faire des nuits blanches et puis le lendemain, bon, on est un peu moins en forme. C'est pas un drame, on peut fonctionner. Et il faut le dédramatiser. Il faut vraiment le dédramatiser. Moi, j'ai une petite technique qui marche hyper bien sur moi, c'est je vais même lutter contre le sommeil. Alors, un quart d'heure après, je suis endormi.
On fait l'inverse.
Exactement.
Votre méthode a son...
Il faut hacker notre cerveau. Il faut pas aller dans le sens, voilà. Il faut pas aller dans le sens de ce que l'anxiété nous dit, de c'est très grave si tu dors pas. Non.
Redites-le, il faut
hacker notre cerveau.
C'est la base.
Voilà.
De tout. Alors, votre méthode a son propre rythme. On va dire, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est, déjà, on est sur combien de semaines, à peu près?
Alors, on est sur 7 semaines. Ça, c'est la première partie de la méthode, une séance par semaine pour apprendre des techniques pour mieux réguler le stress. Et puis, il y a une deuxième partie dans la méthode, parce qu'au fond, à chacun son stress. Il y a des gens, le stress, ça va être plutôt l'anxiété, les ruminations, on en a parlé. Il y a des gens, ça va être grignoté. Il y a des gens, c'est les tocs, etc. Donc, j'ai voulu essayer de proposer des outils un peu spécifiques, des modules un peu, des sortes de petits protocoles comme ça pour chaque forme d'anxiété. Donc ça, c'est dans la deuxième partie.
Vous dites que c'est important, comme on l'a fait en début d'émission, de mesurer son niveau de stress parce que ne s'améliore que ce qui se mesure. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui existent. Qu'est-ce que vous conseillez comme application pour mesurer aujourd'hui, après l'émission, notre niveau de stress?
Mais vous savez, il n'y a même pas forcément besoin d'application. Dans le livre lui-même, on met une simple feuille où on mesure le niveau de stress. Et puis, les gens qui sont un peu geeks, vous faites une fiche Excel où vous cotez jour par jour de 0 à 100 votre niveau de stress. Ça vous fera un joli graphique et vous le faites au début de la méthode. Il n'y a même pas besoin d'application. Après, des applications, il y en a plein, il y en a des tonnes qui sont pour certaines vraiment super bien. Je peux faire la pub pour Petit Bambou, pour d'autres, etc. Mais
ça,
je redis,
ça fait un peu salon de massage, hein, Petit Bambou, mais bon.
Mais je redis, même des choses très simples, un fichier Excel, ça marche très bien.
Alors après, il y a des exercices, l'exercice Bruce Lee. Là.
Oui.
Affect. Alors, vous aimez bien Affect. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la méthode Affect?
La méthode Affect, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'anxieux, il reste trop bloqué sur ses pensées anxieuses, sur ses soucis. Et il a du mal à être un peu souple et à partir ailleurs. Et donc, l'idée, c'était de lui donner des outils pour rendre son attention plus flexible, moins coincée dans les soucis. Comme les chats dont on parlait tout à l'heure, qui sont capables de switcher. Et pour ça, fallait inventer une méthode, fallait essayer de créer une méthode, de regarder ce qui existait un petit peu. Et au fond, l'idée, c'était de dire, si on utilise des bruits, des sons, qu'on peut créer soi-même en tapotant avec ses mains à droite et à gauche, je vais pouvoir décider de mettre mon attention soit à droite, soit à gauche, soit de façon beaucoup plus globale, une attention beaucoup plus globale. Mmh. Et au fond, apprendre à faire la même chose avec mes pensées. Mes pensées anxieuses ne sont que du bruit. Je peux décider de leur accorder toute mon attention, ou 50% de mon attention et la mettre ailleurs. Et donc, il fallait créer un outil un peu concret qui soit très... Moi, je voulais vraiment des outils très... L'idée, je reviens, c'était l'utilité, c'est que ce soit utile à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont mal, qui sont stressés, qui sont angoissés. On voit, on a les chiffres qui montrent que 25% des Français ont quand même des symptômes d'anxiété, 20% des symptômes de dépression, des insomnies. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'accès. On sait les déserts médicaux, c'est difficile d'aller voir des psys, ça peut être coûteux, etc. Les délais d'attente sont très longs. Donc je voulais un outil très simple et très accessible à tous, avec des méthodes très très simples. Et la méthode Affect, justement, tout le monde peut la faire chez soi, tranquillement, simplement. Il n'y a pas besoin... Alors, je voudrais quand même...
Alors, parenthèse,
mettre,
oui.
Je voudrais quand même dire, si vous avez un trouble anxieux, vous êtes en souffrance, etc., un livre, c'est pas magique. Allez voir un professionnel de santé, faites-vous
voilà,
aider.
C'est ça qu'il faut mettre.
Mais évidemment, je voilà, sinon je serais un charlatan. Mais de dire... Sur de l'anxiété légère pour tout un chacun, ça peut être déjà une première approche utile.
Vous nous demandez de taguer certaines pensées. Quelles sont ces pensées que vous demandez de taguer? Qu'est-ce que vous entendez par taguer?
Souvent, tout à l'heure, on parlait des ruminations. C'est quoi la différence d'une pensée anxieuse et une rumination? Et parfois, on ne fait pas la différence parce que notre anxiété utilise les raisons de notre intelligence. Elle est sournoise. Mmh. Et on a du mal à différencier ces nuages gris des nuages blancs. Et l'idée, c'est que, au fond, c'est souvent toujours un peu les mêmes pensées anxieuses. Il y a toujours un côté un peu stéréotypé. Si je la tague, comme je taguerais un personnage sur mes réseaux sociaux, au final, j'apprends à la reconnaître. Et si j'apprends à la reconnaître, je lui dis, je t'ai vu, toi. T'es la pensée anxieuse cachée au milieu des pensées normales. Je t'ai reconnu. Déjà, faire ça, ça lui donne un petit peu moins de poids.
On parlait des motivations, et notamment des motivations au changement. Quel est le bon moment pour changer? C'est le lundi, le mardi, le mercredi, le premier jour du mois, le dernier jour du mois?
C'est une super bonne question.
Avant l'été?
C'est la même question que quel est le bon moment pour arrêter de fumer. C'est compliqué, hein. Chacun a sa réponse individuelle. On peut pas décider à la place des gens. Simplement, ce que je dis aux gens, c'est combien de temps vous vous donnez encore pour rester dans cet état-là?
Vous parlez de
5 ans, 10 ans, un mois, 3 mois, etc. Et là, les gens vous disent non, j'ai envie d'un changement plutôt maintenant. Et moi, je leur dis, en fait, demain, c'est un concept qui n'existe pas en réalité. On n'est jamais demain dans nos vies, hein, on est toujours aujourd'hui. Donc à un moment donné, demandez-vous, quand vous dites demain, vous savez, demain je commence un régime, demain je commence à arrêter de fumer, demain je machin, l'année prochaine, etc. À un moment donné, il faut que ce soit aujourd'hui. Et la question, c'est quelle est votre balance motivationnelle? Qu'est-ce que ça vous apporte ce stress et qu'est-ce que ça vous coûte? Parce que le stress, c'est pas juste un concept d'être stressé. Ça peut créer des maladies, ça peut créer des problèmes des comportements. Il y a des gens, ça les rend extrêmement malheureux. Ça rend malheureux leurs proches, leur entourage. Il y a des gens, ça les rend irritables, colériques. Ça peut faire souffrir au travail les autres aussi. Ça peut rendre moins performants. On peut être en burn-out. Il y a même des maladies cardiovasculaires liées à un excès de stress chronique. Donc, l'idée, c'est pas de dramatiser ni d'affoler les gens. Il y a des techniques. Mais c'est de dire, prenez conscience de ça, du poids que ça a dans votre vie, et demandez-vous combien de temps encore. Combien de temps encore. Et puis si vous vous dites, c'est peut-être un peu maintenant en fait que j'ai envie de d'essayer des choses, ben essayez des choses, essayez-les. Il y a cette méthode, il y en a d'autres, il y a aller voir un psy, mais essayez des choses. Il y a plein de choses, hein, l'hygiène de vie, faire du sport, la méditation, tout ça peut aider aussi.
Mais ça on le sait.
Oui.
Ça marche bien sur vous la méditation, hein?
Pas du tout. Non, mais
surtout la méditation de pleine conscience.
Mais j'ai honte.
Alors là, c'est pareil. C'est un peu comme les neurosciences. On les convoque à toutes les émissions.
J'ai honte de l'avouer d'abord parce que je connais Christophe André depuis longtemps et Dieu sait que c'est quelqu'un en qui je sais que ça peut aider beaucoup de gens. Moi, sur moi, j'ai un peu de le dire, ça a pas fait de miracle.
C'est plutôt yoga.
J'ai peut-être pas la patience, j'ai peut-être pas le etc. Ceci dit, je pense une chose. C'est qu'il n'existe pas une méthode miracle qui marcherait chez tout le monde. Et que c'est bien qu'il y ait aussi des outils un peu différents.
Et la motivation, on le répète souvent dans cette émission, mais ce n'est pas une question de volonté.
Non.
C'est une équation complexe, hein, comme vous l'expliquez.
Et il y a l'aspect du plaisir aussi. C'est quel plaisir j'aurais dans ce changement.
Bon, dans votre livre, il y a des exercices, des protocoles. Ça aussi, c'est à la mode. Mais ça fonctionne. Ça s'appelle « Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime ». Aux éditions Marabout. Merci docteur David Gourion d'avoir été notre invité ce matin. On réécoute l'émission en podcast et vous voyez la vidéo sur la chaîne YouTube. Pardon, passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.